Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Imo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois passionnant et exigeant, l'expertise des actifs résidentiels de luxe. Car derrière ces biens d'exception, hôtels particuliers, appartements haussmanniens, villas sur la Côte d'Azur ou propriétés en Normandie, se cachent des enjeux très spécifiques. Valorisation patrimoniale, attente d'une clientèle internationale, forte sensibilité au cycle de marché et surtout, bien sûr, une expertise immobilière beaucoup plus fine que sur le résidentiel classique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois expertes du groupe Expertise Galtier avec nous. Coralie Couvret, bonjour Coralie.
Bonjour Eric.
Vous êtes directrice générale déléguée et directrice du pôle immobilier. Avec nous également Manon Coste, experte en évaluation immobilière. Bonjour Manon.
Bonjour.
Merci de votre présence. Et Maïlys E. On dit comme ça, hein.
Ça.
J'ai oublié de vous le demander avant, mais c'est bien, voilà, vous me dites si je dis des bêtises. Maïlys, et vous êtes responsable des expertises immobilières Île-de-France et Normandie. Bonjour à toutes les trois et merci d'être avec nous pour évoquer ce sujet important. Alors, première question, je vous la pose à toutes les trois. Quand on parle d'un actif résidentiel de luxe, de quoi parle-t-on exactement ?
Coralie. Alors, on va le développer plus amplement après, mais on parle effectivement d'appartements, mais pas l'appartement classique, des appartements de grande taille avec une localisation très spécifique, avec des penthouses, avec des dimensions de pièces très grandes, ou ça peut être aussi des propriétés avec de très grands terrains, ou un peu moins, selon où on se situe. On verra que sur la Côte d'Azur, on ne peut pas avoir...
Oui, c'est ce qu'on imagine en premier lieu, voilà. des grandes propriétés.
Des grandes propriétés avec de grandes maisons. Ça peut être aussi, moins peut-être des châteaux aujourd'hui, mais quelques propriétés en Normandie avec des châteaux. Des chalets à la montagne, bien évidemment, mais pas le petit chalet, de gros chalets ou de gros appartements, enfin grands en taille, avec une vue exceptionnelle au pied des pistes. Mmh. Voilà, ce sont des typologies d'actifs, de par leur localisation et leur description, leur manière d'être agencée et le volume des pièces en font des biens en bien d'exception.
On va bien sûr rentrer dans les détails de tous ces biens. Ça va nous faire rêver aussi un petit peu, hein, puisque
on n'a pas de photos, mais on aurait pu amener des photos, parce que ça fait souvent rêver, effectivement.
Vous aurez peut-être quelques exemples à nous donner qui nous feront
rêver. Oui, avec des vues mer, avec des vues montagne.
Ouais, voilà.
La prochaine fois, on apportera des photos.
Oui, avec grand plaisir, bien sûr. Alors, rappelez-nous quand même, Coralie, dans un premier temps, l'ADN de Galtier, et plus particulièrement votre activité en immobilier. Alors, Expertise Galtier, c'est un groupe de 280 collaborateurs, hein, je crois, c'est ça ?
Alors, c'est un groupe qui a plus de 130 ans aujourd'hui, donc qui est indépendant, qui est détenu majoritairement par ses collaborateurs et la famille Galtier. Donc, nous sommes effectivement... 280 collaborateurs, 200 experts répartis sur l'ensemble de la France, sur 14 bureaux. Mmh. Et nos métiers se décomposent en trois métiers. Le sinistre, donc nous accompagnons les sinistrés. Deuxième pôle, c'est l'assurance. Nous faisons des valeurs d'assurance principalement pour assurer ces biens particuliers ou industriels. Et puis le troisième pôle dont je m'occupe, c'est le pôle immobilier qui regroupe trois activités. Donc l'expertise immobilière, Galtier Valuation, dont vous avez deux expertes responsables. Nous avons aussi une structure qui s'appelle G2E, qui donc fait de l'audit environnemental. Et puis Diagbat, ce qu'on appelle Diagbat, diagnostic bâtiment, pour tout ce qui est diagnostic bâtiment, sécurité, réglementaire et non réglementaire. Donc voilà nos spécificités avec nos experts. Mais notre ADN, c'est conseiller nos clients, apporter les meilleures valeurs et argumenter nos valeurs et leur apporter le meilleur conseil.
Alors, comme aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux actifs de luxe, comment s'organise votre département dédié justement à ces actifs de luxe ?
Alors, ce département, nous l'avons créé en fait il y a quelques mois, mais nos experts sont seniors et très expérimentés dans ce domaine depuis bien longtemps. Mais on a voulu créer ce département donc sous la responsabilité de Manon pour vraiment apporter un conseil à nos clients et une référence sur le domaine. Elle est responsable de ce département. Elle est basée à Marseille, Nice, mais couvre tout le secteur du grand luxe que l'on connaît bien sur ce secteur du Sud dont elle nous parlera. Et Manon travaille bien évidemment avec Maïlys, qui est responsable du secteur Paris-Normandie, où là on trouve beaucoup d'actifs de luxe, mais aussi sur Lyon, qui couvre le secteur de tout ce qui est montagne. Et là, on le sait aussi, beaucoup de résidences de luxe et de chalets. Et puis aussi avec le Sud-Ouest, puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a effectivement de plus en plus d'actifs qu'on peut cataloguer. Je vous laisse le dire. notamment sur le Cap Ferré, Arcachon, enfin tout ce secteur-là, on voit qu'il y a vraiment une clientèle de luxe qui arrive.
Géographiquement parlant, c'est très très spécifique quand même. Vous avez vraiment des points précis où ça peut être aussi un peu n'importe
on
où.
On parle du triangle, hein, ouais. Côte d'Azur, ouais. Paris, montagne. Et effectivement, maintenant, on se rend compte que sur le sud-ouest, il y a beaucoup de propriétés de luxe aussi qui répondent aux critères. Normandie, on en a toujours eu plus ou moins. Mais c'est vraiment aujourd'hui ces quatre secteurs dont on parlera tout à l'heure.
Alors, quel type de biens vous expertisez concrètement, parlant, on évoquait les grandes propriétés, les villas d'exception, les appartements aussi d'exception, etc.
Alors, ce sont des acquisitions qui sont faites sur ce type de biens, soit personnellement pour y habiter ou pour revenir en vacances. Et on voit de plus en plus qu'il y a des acquisitions investissement, dont on vous parlera aussi, il y a les hôtels, investissement loisirs, mais investissement aussi où ces personnes achètent des biens d'exception pour les occuper de temps en temps et les louer, puisqu'il y a aussi aujourd'hui une volonté d'investir, mais de rationaliser les investissements. Donc on vous en parlera tout à l'heure. Le marché locatif est aussi un marché en expansion sur ce type de biens.
Qu'est-ce qui vous a donné envie chez Galtier d'aller vers ce secteur du luxe? Vous l'avez dit, vous avez créé le département il y a quelques
mois. Oui, on a créé le département,
mois,
hein, ouais. Parce qu'on a une clientèle de plus en plus exigeante qui a besoin de référents sur ce type de biens, qui ont besoin de confidentialité. Et ça, on leur assure que les experts qui viendront expertiser leurs biens sont des experts seniors, en toute confidentialité, lorsque vous avez soit des artistes, des gens du showbiz ou des gens tout simplement de l'industrie et qui ont des positions connues. On leur assure la confidentialité de notre intervention sur tous les domaines, aussi bien les documents que la visite, etc. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui très à l'affût et très, très portés sur la confidentialité, la sécurité. On vous en parlera tout à l'heure, mais oui. C'est aujourd'hui très important. Donc on a voulu leur donner un secteur dédié et les rassurer sur ce domaine-là, en fait. Mais nous intervenons depuis très longtemps dans ce type de biens. Manon
oui,
pourra
ça,
vous en parler, Maëlys aussi.
C'est pas venu d'un coup, vous aviez déjà une clientèle
On avait déjà une clientèle, ça, mais oui. Également pour les banques, leur dire, voilà, on a un département dédié important. Maintenant qui intervient dans des délais très courts, on vous en parlera aussi. C'est une clientèle très exigeante qui a besoin d'une intervention très rapide en toute indépendance et confidentialité. Donc voilà.
En volume, ça représente quoi aujourd'hui? Alors j'imagine que, puisque vous venez de le créer, c'est un marché qui est en croissance pour vous?
Alors par rapport à ça tout dépend du référentiel, bien évidemment, on en parlait ce matin. Par rapport à l'année dernière, oui, on sent une activité plus forte. Oui. Mais c'est nous faisons à peu près 1000 interventions dans l'année, oui. Sur tous les secteurs dont on vient vous parler, sur tous les types de biens. C'est une clientèle qui est très sensible à la conjoncture, donc on connaît aujourd'hui la conjoncture.
C'est ça, j'allais vous dire, est-ce que ça joue aussi sur
Alors ça joue énormément, effectivement, en période électorale, ça joue avec le contexte économique, effectivement, et géopolitique en fonction des clientèles que nous avons ou que nous n'avons plus ou qui reviendront. Et puis tout ce qui est aussi impact fiscal, donc effectivement toutes les élections, et celles qui sont passées, celles qui seront à venir, pourront être impactantes pour ce type de clientèle en fonction des investissements qu'ils auront à faire et de la fiscalité qui leur sera imposée.
Alors, on va rentrer, puisque vous nous avez mis l'eau à la bouche, Coralie, on va rentrer dans le vif du sujet. On va s'intéresser plus particulièrement à cette analyse du marché de luxe, peut-être avec vous, Manon. Alors, mesdames, n'hésitez pas, hein, s'il y en a une qui veut intervenir aussi à un moment donné pour compléter, ou n'hésitez pas. Et puis moi-même, je rajoute, hein, vous l'avez vu, des petites questions par rapport à tout ce qu'on avait s'était dit en préparant cette émission, mais c'est important aussi de vous écouter. Alors Manon, comment est-ce qu'on définit aujourd'hui la frontière entre haut de gamme et luxe sur le marché immobilier? Moi, j'imagine, le luxe, c'est vraiment quelque chose de fantastique, je dirais.
Tout à fait. On peut parler d'exceptionnel quand on parle du très luxe. La frontière, elle va être définie par un budget qui va être différent en fonction des secteurs. Donc, par exemple, sur Paris, on va parler de luxe quand on démarre à 3 millions d'euros, à peu près.
Ouais, ouais.
Ensuite, sur les secteurs prime qu'a cité Coralie, donc par exemple la Côte d'Azur, le Var, la Corse du Sud, la Côte Ouest, etc., les Alpes, on est plutôt sur des budgets qui démarrent à 2 millions d'euros. Mmh. Et sur le reste de la France, autour d'un million d'euros. Quand on passe à l'ultra-luxe, donc là, on parle de prestations d'un niveau exceptionnel, d'un niveau d'équipement aussi qui va suivre, l'emploi de matériaux très qualitatifs, un niveau de sécurité également au-delà du simple confort luxueux. Et là, les budgets donc, seront supérieurs. Donc, on parle de 8 millions pour Paris, 5 millions sur les adresses prime que j'ai citées. Et sur le reste de la France, on sera autour de 3 millions à peu près. Voilà. Donc, ça scène le marché dans ces deux segments.
Donc, ce sont des marchés où les clients sont là. Ils sont là. C'est facile de les trouver. Comment ça marche? Parce que là, je me pose souvent la question.
Oui, ils sont là. Il y a une majorité en fonction des secteurs d'étrangers. En fait, il y a à peu près entre 35 et 70% d'étrangers en fonction des secteurs. C'est particulièrement marqué donc, dans le sud-est et Monaco, où là, on peut dépasser facilement 70% de clientèle étrangère. En fait, c'est une catégorie qu'on nomme les ultra-riches. Alors, il y a le SILG qui existe, les UHNWI. Donc, dans le monde, ils sont... Oui, des ultra high net worth individuals.
Voilà, merci. Voilà.
Donc, dans le monde, ils sont à peu près 510 000 au dernier recensement juin 2025. Et en fait, c'est en grande phase d'expansion, puisqu'à l'horizon 2030, ils devraient être 30% de plus. Donc, c'est une clientèle qui est là.
D'accord. 30% de plus en 2030. Ouais.
Oui, c'est exponentiel. Ouais. Et en fait, la clientèle se modifie en ce moment même. Ça a déjà commencé. On parle de grande transmission de patrimoine parce qu'en fait, les baby-boomers vont disparaître dans les années à venir. Mmh. Et ils sont remplacés donc, par les nouvelles générations qui consomment différemment. Donc, on le voit tout de suite sur le marché de l'immobilier. Ça joue sur les types de biens qui sont demandés aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont très friands de la France, de Paris pour certains, de la Côte d'Azur pour d'autres, de Monaco de toute façon pour d'autres raisons qu'on pourra détailler après. Mais oui, ils sont là.
Ouais, la France reste, on sait que c'est la première destination en termes de tourisme au monde, mais aussi pour l'immobilier de luxe.
Aussi, complètement.
Bon, on va souhaiter quand même aux baby-boomers de ne pas disparaître trop vite. Hein, parce que, voilà, comme on vieillit plus aujourd'hui, on est mieux aujourd'hui.
C'est à l'horizon 2040.
D'accord, ça laisse un peu de temps. Voilà. Quelles sont maintenant les grandes tendances actuelles du marché du luxe en France?
Alors, les grandes tendances, on est sur une année 2025 qui a plutôt bien fonctionné au vu des résultats qui ont été publiés début d'année 2026. Donc, il y a notamment trois groupes de prestige qui ont publié leurs chiffres. Donc, on a Sotheby's, Engel & Völkers et Barnes, par exemple, qui ont annoncé entre plus 20 et plus 40% en volume sur l'année 2025 par rapport à 2024. On n'atteint pas, malgré tout, les niveaux de 2022, qui était une année post-Covid vraiment exceptionnelle. Mais on est sur un redémarrage, parce que 2023 et 2024 avaient été un peu plus compliqués. En termes de nombre de transactions, Sotheby's a enregistré quasi 1000 ventes sur ce segment-là, avec un prix moyen d'à peu près 2 millions d'euros, donc sur toute la France.
D'accord.
Et globalement, enfin historiquement, les ventes en luxe, ultra-luxe, représentent à peu près 5% des ventes en résidentiel national.
Et ça, c'est bien, 5% par rapport à, si on compare aux pays étrangers, oui, c'est...
Oui, je pense. Ouais. Je pense. J'ai pas de chiffres en tête. Mais la France, normalement, se porte bien sur ce segment-là, oui.
Qui sont aujourd'hui les acheteurs de ces biens? Alors, vous avez évoqué la clientèle étrangère. Ils viennent d'où
Alors, tout dépend des secteurs. On va pas avoir la même clientèle. Donc, moi, je pourrais en parler sur la Côte d'Azur, Monaco, le Var, etc. On a beaucoup d'Américains. Donc, en fait, ils sont pas mal revenus depuis la réélection de Trump, notamment. C'est intéressant pour eux, au niveau monétaire, d'investir chez nous. Ensuite, on a des Européens, donc Europe du Nord, mais aussi Europe de l'Est. Ils n'ont pas les mêmes attentes, mais ils sont là.
Ils sont là quand même.
Oui, tout à fait.
Malgré le conflit russo-ukrainien, il y a encore.
Oui, complètement. On en voit encore. Alors, pas les mêmes.
D'accord.
Mais ça reste quand même une origine très présente sur notre secteur. Et ensuite, sur le secteur donc, de Paris, on voit aussi une population asiatique qu'on ne voit pas beaucoup chez nous.
Vous le remarquez, ça, Maïlys, vous
Oui, on voit en effet beaucoup plus. Les Asiatiques depuis, je dirais, 2025, début 2025. En effet, une clientèle qui recherche pas mal aussi, en fait, la vue sur monument. Et pas la chaleur du sud. Ils se concentrent pas mal sur Paris, ouais, en effet.
Ah, c'est essentiellement sur Paris. La Normandie aussi, il y a des clientèles, une clientèle étrangère aussi sur la Normandie.
Oui, il y a une clientèle étrangère, mais je dirais plus Europe de l'Est et Europe du Nord aussi.
D'accord.
Donc asiatique.
On en reparlera dans quelques instants, si vous le voulez bien. Alors ça, c'est les acheteurs, hein, plutôt. Oui. Il y a des Français, quand même
Quand même.
Oui, quand même.
Ça dépend des secteurs. En fait, ils sont plus ou moins présents. Voilà. Mais ils sont là, bien sûr.
Bien sûr. Oui, oui. Et côté vendeur, est-ce qu'on observe des évolutions particulières?
Alors oui, ils sont obligés de s'adapter à la demande. Donc nécessairement, ce qu'on remarque de plus en plus, je pense aussi bien à Paris que dans le sud et dans d'autres secteurs, c'est les biens clés en main, donc décorés, prêts à être habités. Vraiment, ça, c'est une demande qui est forte. Et du coup, les vendeurs s'y adaptent et fournissent des biens très qualitatifs en termes de prestations, d'équipement, de décoration. On a aussi une grande augmentation du off-market ces derniers temps. Donc je pense corrélé avec le besoin de confidentialité qui est très fort sur ce segment de clientèle. Donc je sais qu'à Monaco, ça peut représenter une vente sur 5, par exemple. Okay. Paris, je crois que selon les secteurs, il y a des pourcentages qui ressortent qui sont très importants, hein, quasiment 40%. Ce qu'on voit aussi, c'est de plus en plus d'attention de la part des acheteurs et donc des vendeurs aux critères ESG, donc la durabilité des équipements, etc. Même sur ce segment-là, c'est quelque chose qu'ils vont regarder.
Ça, c'est rentré dans les normes, toute cette partie ESG.
Complètement. Même sur ce segment de marché.
On a l'impression qu'on fait encore beaucoup d'informations, presque d'éducation sur ces sujets-là. Maintenant, c'est quelque chose qui est.
Oui. Dans les biens qu'on visite, vraiment, c'est quelque chose qui est, auquel ils sont attentifs.
Moi, j'ai eu, par exemple, en effet, des gros travaux sur un bâtiment et ils ont récupéré les briques et ils les ont grattées. Ils ont récupéré les briques, mais en fait, ils les ont démolies de démolition et ils ont récupéré pour faire des matériaux, pour faire des vasques, pour faire du mobilier, en fait, pour pas avoir de pertes. Un réemploi des matériaux.
Regardez l'âme des bâtiments, ça se fait beaucoup aujourd'hui.
Ça se fait beaucoup aujourd'hui.
Ce qui se faisait avant. Hein. On réemployait les matériaux, mais maintenant, ça revient. Mais c'est effectivement garder l'âme des bâtiments aussi.
Il y a une clientèle qui est très sensible à l'histoire et au patrimoine.
C'est rassurant en même temps, on se dit. Parce que, effectivement, l'histoire du réemploi, ça se faisait avant, mais aujourd'hui, c'est conseillé. C'est des choses que vous-même, en tant qu'expert, vous pouvez mettre en avant.
Alors, on peut le mettre en avant, mais c'est surtout les architectes, c'est surtout les concepteurs. Donc, soit on est complètement dans du neuf et des gros volumes, on en parlera avec des grandes baies vitrées, et tout est neuf et tout est moderne. Soit on est vraiment dans du réemploi et garder l'âme, mais on l'a en habitation, comme on peut l'avoir en industriel aussi. On voit des anciennes usines réadaptées, on garde l'âme des bâtiments. Il y a la même chose sur des propriétés où on veut garder une partie de ces bâtiments et réemploi des matériaux.
Nous, on le voit chez nous au niveau des pierres, par exemple.
Oui.
Les pierres locales.
Sur la Provence,
exactement.
La Côte d'Azur.
Ça, c'est quelque chose qui est très, très regardé.
C'est vrai que c'est important de préserver aussi ce patrimoine exceptionnel que l'on a à travers les différentes régions de France. Est-ce que ce marché du luxe résiste mieux que le marché immobilier dans le contexte actuel? Alors, vous nous l'avez un peu dit tout à l'heure, Coralie, mais pourquoi est-ce qu'il résiste mieux?
Alors, je dirais déjà qu'on a une offre limitée. De fait, on n'a pas des biens luxueux partout. En termes géographiques aussi, on est limité. Alors, pour ma part, Sud-Est et Corse, Monaco, c'est vraiment des territoires qui sont compliqués géographiquement parce qu'on est entre mer et montagne, donc il y a des reliefs, etc. On n'a plus de terrain, il n'y a plus de foncier. Donc, peu d'offres. Donc, ce qui fait que ça résiste mieux parce que la demande est là. Et, et les biens, on est obligé de faire avec l'existant. Donc, il y a de grandes rénovations qui sont menées, etc. Et comme on disait aussi tout à l'heure, cette clientèle n'est pas forcément sensible aux hausses de taux d'intérêt, au final, parce qu'il y a beaucoup d'achats sans emprunt.
Oui, c'est ça. Ce sont des personnes qui ont la chance de pouvoir acheter sans emprunter.
Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que ça résiste mieux en temps un petit peu compliqué sur les changements de gouvernement qu'il y a pu avoir. Ils y sont moins sensibles.
Comment vous les trouvez, les biens? C'est une question que je me pose souvent, parce que vous l'avez dit, c'est pas évident hein, de trouver... Ils viennent directement vers vous, ou vous avez quand même un petit peu de recherche à faire?
Ah non, parce Coralie. Que nous ne ouais. faisons que de l'expertise.
Que de l'expertise.
Nous ne faisons absolument pas de transactions. Nous sommes, comme j'ai dit, un groupe indépendant. Et notre seul métier, c'est l'expertise. Donc, on n'a pas d'acquisition à proposer aux clients. Et on ne vendra pas non plus. Donc, on est vraiment indépendant. Donc, en fait, ce sont des clients qui viennent vers nous de par leurs besoins d'acquisition et qu'ils veulent se sécuriser sur une valeur, même si eux veulent acheter plus cher parce qu'ils ont des coups de cœur, on en parlera, mais nous devons rester dans le marché. Il y a des clients qui viennent par leur banque lorsqu'ils font un emprunt, un refinancement ou pour des raisons difficiles, on le verra. Donc en fait, ils viennent vers nous parce qu'ils ont besoin d'une expertise faite par un spécialiste, par un professionnel et d'une signature et d'un engagement. Par des notaires aussi, on en parlera, ou des marchands de biens ou autres. Mais nous ne vendons pas et nous ne gérons pas non plus. Donc on a vraiment une indépendance totale.
Bon, mais c'est bien de l'avoir précisé, parce qu'on pouvait se poser la question. Alors, justement, vous évoquez l'expertise, la spécificité de l'expertise. Vous l'avez dit, vous êtes depuis peu, hein, chez Galtier, intéressé à ce secteur du luxe. En quoi l'expertise d'un bien de luxe, Maïlys, vous qui êtes experte justement, sur cette partie immobilière, en quoi est-ce que l'expertise d'un bien de luxe est fondamentalement différente d'un bien classique, ce que vous avez l'habitude de faire chez Galtier?
On va déjà ne pas avoir les mêmes clientèles, on ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. Et puis, on a des critères d'appréciation qui sont totalement différentes. Manon a parlé de la rareté de biens. En effet, sur des biens d'exception, vous aurez cette rareté qui rentrera en jeu, à l'inverse d'un bien classique que vous pouvez retrouver plus facilement sur le marché.
On a l'exemple de la Tour Eiffel. Face à la Tour Eiffel,
Il
n'y a pas 10 000 appartements.
C'est ça.
Voilà, donc sur Paris, c'est ce que Maïlys va vous expliquer.
Ils veulent tous la Tour Eiffel, c'est ça, en gros?
Pas tous, non. C'est en fonction des clientèles. On en parlait tout à l'heure. Les clientèles asiatiques, en effet, aiment bien la vue sur la Tour Eiffel, alors qu'une clientèle américaine va préférer s'attacher plutôt à l'histoire du bâtiment, de l'appartement, ou du lieu, qui a une histoire.
Quels sont les critères déterminants dans l'évaluation des biens? Alors, je pense forcément d'abord dans un premier temps à l'emplacement, parce que c'est ce qu'on dit toujours dans l'immobilier, l'emplacement.
C'est ce que dit Maëlys. En fait, selon les clientèles, ils veulent être dans tel secteur pour être proche de tel bâtiment, telle vue. Donc
forcément, l'emplacement en numéro un. Il y a quelque chose qui compte beaucoup aussi, c'est la sécurité et la confidentialité. Donc avoir un accès privatif, un garage, des gardiens. Donc ce qu'on retrouve dans certains arrondissements de Paris, par exemple dans le 7e, 6e et 7e, qui sont très sécurisés avec les nombreux ministères et ambassades. Il y a bien sûr aussi donc la confidentialité. C'est des personnes en général connues ou qui peuvent être menacés, ils ont besoin de sécurité et sans vis-à-vis, donc qu'on puisse pas les voir de chez eux.
C'est un critère que vous ressentez de plus en plus, j'imagine.
Les hôtels particuliers, ça fait partie des appartements, des hôtels particuliers sur Paris. Lorsqu'il y a un jardin, s'il y a des vues, ça n'a pas du tout la même valeur que si vous avez aucune vue sur votre jardin.
Voilà, c'est
essentiel.
C'est essentiel, ouais.
Alors ça se vend quand même et on fait quand même des expertises, mais ça n'a pas le même prix.
Oui, c'est ça. Voilà. Ou bien ils vont peut-être parfois aller acheter l'appartement à côté pour avoir
exactement.
Cette confidentialité.
Confidentialité.
Et cette sécurité, donc, qui est devenue... Mais c'est vrai qu'on le voit dans l'actualité, il y a eu de plus en plus d'attaques au niveau des personnalités, donc j'imagine qu'effectivement cet aspect-là est très important. D'autres critères déterminants?
Bien sûr, tout ce qui est prestations intérieures, donc l'espace, des prestations de type piscine, sauna, spa, la domotique, et puis forcément aussi tout ce qui est espace extérieur. Donc à Paris, ça peut être un jardin, en effet, sur les hôtels particuliers, sans vis-à-vis... Ou bien une terrasse avec des vues sur des monuments emblématiques. Et là, en fonction de la vue, si vous avez juste le haut de la Tour Eiffel ou si vous avez une vue à 180 degrés sur, sur plusieurs monuments, forcément, ça n'aura pas la même valeur.
Et l'histoire du bien aussi, hein, c'est ce que vous disiez, ce que disait Manon tout à l'heure. C'est ouais. important aussi.
Tout à fait. On a ça aussi, des biens qui ont été habités par Napoléon, par des rois, voilà, ou par des familles princières. C'est une célébrité aussi qui peuvent jouer en effet sur...
L'histoire, là.
Sur le prix.
Alors, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, ouais. si c'est trop marqué, mais c'est ouais. vrai que ça peut être effectivement vraiment recherché.
Un petit peu à froid, mais est-ce que vous auriez peut-être un exemple? Alors, je sais que vous êtes tenu par la confidentialité, etc., mais un exemple d'un bien que vous avez pu expertiser récemment ou il y a quelque temps qui vous a marqué, qui serait, je ne sais pas, sur Paris ou la Normandie, ou Marseille même, ou, enfin, ou la Côte d'Azur.
Jamais, mais pour le coup, on est vraiment sur la confidentialité.
Non, mais on peut vous parler d'hôtels particuliers.
Je tente, hein, je tente.
Des jardins de 1000 mètres carrés en plein Paris, ouais. Décorés par des architectes de renom. Vous verrez les photos dans les magazines à papier glacé, mais vous ne verrez jamais le nom de ces propriétaires, mais le nom des architectes, en fait.
Voilà, les noms des architectes vont le citer.
On en revient à la confidentialité, tous ces magazines qui vous font rêver. On aurait dû les amener. Vous ne savez jamais qui est propriétaire. Par contre, l'architecte met en valeur ses biens d'exception sur la décoration, sur la manière dont ils les ont agencés, sur les volumes aussi. Il y a vraiment des biens qui font l'objet de travaux très, très, très coûteux.
Oui.
Mais ce n'est pas le sujet pour ces propriétaires. Ils ont l'emplacement, ils ont le bien, ils sont capables de casser un plancher pour avoir des volumes exceptionnels, de refaire une toiture terrasse s'il y a des droits à construire, aussi de reconstruire à Paris et Monaco. Vous avez des biens, on parlait de 5-10 millions, mais vous avez des biens à 100 millions. Hein, on n'est pas allé dans les...
Oui, oui. C'est là, récemment, je suis intervenue sur un appartement neuf. Ouais. Donc, sur l'extension en mer qui vient d'être faite à Monaco.
Ouais.
L'appartement vient d'être livré. Le propriétaire actuel a racheté. Il a injecté 11 000 euros le mètre carré en travaux sur une très grande surface.
Oui, donc
c'était neuf.
Voilà.
Il n'y a pas de sujet en termes de budget travaux. C'est,
soit ils achètent, et c'est du clé en main, c'est ce qu'on disait, soit ils achètent quelque chose, clé en main ou pas, ils referont des travaux avec leur architecte, leur volonté, les volumes, la sécurité. Bien évidemment, ça c'est très important. Ils sont capables d'injecter beaucoup d'argent. Donc en fait, on parlait de 3 à 10 millions, mais régulièrement, on fait des expertises à 50 millions, 100 millions. Après, on signe quand même des valeurs. Donc oui, on est sur des prix et des volumes financiers très, très importants. Donc, on ne peut malheureusement pas vous en dire plus, mais oui, on voit de très,
déjà,
très belles
rêver,
choses.
Déjà, vous nous faites rêver, c'est bien. Déjà, on imagine.
De très belles choses. Place Vendôme aussi, avec des adresses d'exception. Alors, il y a l'adresse, puis des fois, vous êtes derrière. Hein, donc, on est un peu déçus quand on vient visiter.
Il y a l'adresse, mais en fait, ça donne de l'autre côté.
Mais il y a vraiment des biens d'exception qui sont magnifiques. Qui sont magnifiques.
Et pour ce type d'expertise, qui sont vos donneurs d'ordre, Maïe?
Principalement des banques.
Oui.
Banques et banques privées, des avocats. On a aussi des familles françaises, quand même, faut pas les oublier, oui. Elles sont bien là. Des family office.
Des propriétaires en direct qui, par leur conseil, ont besoin d'une expertise pour valoriser leur patrimoine. Et puis, comme on le disait, il y a de l'investissement loisir, mais il y a de l'investissement vraiment aussi maintenant financier. C'est qu'est-ce que ça leur coûte, qu'est-ce que ça peut leur apporter s'ils le mettent en locatif. On en parlera peut-être plus tout à l'heure. Donc, il y a une génération qui est quand même beaucoup plus attentive à la rentabilité et à ce qu'ils peuvent faire de leur bien.
C'est nouveau ou c'est quelque chose qui se développe, en tout cas, c'est ce que vous disiez maintenant.
Ouais, oui, ça se développe. Et puis surtout, il y a une clientèle en face qui est là pour prendre en location des biens d'exception sur des périodes estivales.
Sur l'événementiel.
L'événementiel et à des prix qui nous paraissent très, très élevés. mais pour eux, c'est plus facile que d'acheter une propriété, c'est ce qu'on disait. Bon, mais ils sont sur des biens d'exception. Donc, effectivement, le besoin de la valeur de l'actif, mais de plus en plus, Maëlys et Manon vous en parleront, il y a des valeurs locatives. Combien pourrions-nous louer cet actif-là pour un peu le rentabiliser aussi? Il y a quand même toute une génération qui est beaucoup plus attentive à cela. Donc,
ouais, c'est vrai que ça
plusieurs types de clientèles peuvent venir vers nous.
Ça me fait penser au MIPIM où nous étions il n'y a pas si longtemps que ça, et où effectivement, sur
au
Cannes,
niveau
voilà, au niveau des terrasses, oui, etc., oui. Les biens d'exception se louent pendant la période du MIPIM.
Complètement. Bah, Cannes est un marché très porteur pour ça, parce qu'il y a le Festival de Cannes, il y a le MIPIM, et après, ils jouissent même des événements monégasques, du coup.
Oui.
Parce que c'est encore des niveaux au-dessus, mais la clientèle se reporte sur des secteurs de la Côte d'Azur.
Vous avez la même chose à Paris, ouais. Et vous ne savez jamais qui est propriétaire.
Ouais. Notamment pour la Fashion Week. Ou
voilà.
D'accord, et c'est plusieurs fois par an, puisqu'il y a, il y a au moins deux fois, même plus, des Fashion Week.
Donc certains acceptent de louer leurs biens sans dire qu'ils sont, parce qu'il y a des sociétés écrans, et ils reviennent l'occuper. Donc, de très belles choses.
Au niveau de l'expertise, dans quel contexte vous intervenez sur ces biens ? Donc vous l'avez dit, bon, ça peut être la vente d'un appartement, une succession aussi, par exemple ?
Ouais. Oui, succession, bien sûr. On en parlait en plus avec les nouvelles générations qui arrivent et donc sur les transmissions patrimoniales. Pas mal sur les financements, bien sûr, que ce soit en garantie financière ou bien en achat, en investissement.
Travaux.
Travaux. Ouais.
Les marchands de biens aussi.
Les marchands de biens, ouais. On a quand même des marchands de biens qui se positionnent plutôt sur un emplacement, en fait, et qui vont tout refaire. Mais j'en ai, enfin, notamment à Paris, je ne sais pas si dans le sud. On en a pas mal.
Pour les filles aussi.
Là, on intervient, ils l'ont déjà acheté, mais on intervient effectivement à certaines périodes.
Sur le suivi patrimonial, du coup.
Plus toutes les dispositions fiscales qui peuvent sortir tous les ans, plus l'IFI, effectivement, là, ils sont très attentifs et leurs conseillers leur demandent souvent, ou leurs avocats, leurs conseillers leur demandent souvent de faire évaluer régulièrement leur portefeuille.
Est-ce qu'il y a une part de subjectivité plus forte dans l'évaluation du luxe ? Et si oui, comment on la maîtrise ?
Ah, forcément, oui. J'imagine que si je vous dis est-ce que vous voulez un appartement avec vue sur la Tour Eiffel ou sur Montmartre, les personnes ne vont pas répondre la même chose. Donc, il y a forcément une subjectivité de ce que vous...
Le coup de cœur.
Le coup de cœur. Vous aurez ou que le client aura.
J'imagine que ça peut arriver aussi qu'on voit la Tour Eiffel et puis qu'on achète à Montmartre.
Bien sûr, ça arrive, heureusement. on se rattache forcément aux critères qu'on a évoqués avant sur tout ce qui est sécurité, emplacement, prestations intérieures. Et quelque chose qui est quand même de plus en plus difficile en tant qu'expert, c'est ce qu'on disait, c'est les produits clés en main où la clientèle de luxe attend vraiment un achat complet, donc avec du mobilier, parfois avec des œuvres d'art. Et là, nous qui sommes experts en immobilier, donc normalement, on ne prend pas en compte dans notre évaluation tout ce qui est mobilier et œuvres d'art, ce qui est un marché à part. Et donc, ça devient, en effet, c'est plus exigeant et c'est plus difficile pour nous.
Certains appartements ont des décorations qui sont des immeubles par destination parce qu'ils sont inclus dans l'appartement, des cheminées gigantesques ou autres, mais qui sont avec des prix faramineux. Mais c'est vrai qu'il y a eu un exemple à Paris qui avait dépassé 80 000 euros du mètre carré, une vente, mais qui était citée dans la presse, donc on peut le citer. Et en fait, dans ces 80 000 euros du mètre carré, ce n'était pas que de l'immobilier, il y avait du mobilier. Donc c'est là où il faut vraiment être très attentif et ça fait partie de notre métier, c'est vraiment décomposer ces références que nous pouvons citer ou pas citer, selon la confidentialité, mais qui intègrent bien souvent plus que de l'immobilier. Donc il faut effectivement faire la part des choses. On a fait des propriétés où il y avait des œuvres d'art par des peintres très très connus qui sont décédés, qui sont venus chez des amis peindre sur des murs.
Ah oui.
C'est de l'immobilier par destination. Mais pas l'enlever, c'est classé. Il y a aussi tous les faits, les immeubles classés, Architectes de France, les bâtiments de France.
Ça veut dire qu'il peut y avoir l'intervention d'un autre expert en plus d'un
expert
plus spécialisé
en art, en patrimoine. Qui, effectivement, c'est un mur qui est peint, qui est peint par quelqu'un de très, très connu. Et donc, dans certains cas, effectivement, on dit bien qu'on fait de l'immobilier, même si tout ça fait partie de l'ensemble et tout ce qui est objet d'art ou tableaux ou autres, des experts spécialisés effectivement interviennent.
Alors on s'intéresse, parce que le temps passe vite, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, au territoire, justement, puisqu'on a la chance d'avoir des expertes et sur la Côte d'Azur, à la Provence et également sur Paris et Normandie. Alors avec vous, Manon, la Côte d'Azur reste, on peut le dire, je crois, une place forte du marché du luxe aujourd'hui.
Complètement. Complètement. Elle a beaucoup d'attraits, notamment pour la clientèle internationale dont on parlait. C'est vrai qu'il y a un sujet d'accessibilité. Elle est très bien desservie. Donc, on a l'aéroport international de Nice, où les chiffres ne cessent d'augmenter.
Qui devient le deuxième aéroport de France.
Exactement. Hein. Donc, ça aide pas mal pour cette clientèle. En plus d'héliports qu'on a à Cannes, dans le golfe de Saint-Tropez, à Monaco. Donc, ça complète. Et les ports, puisqu'en général, le yacht peut suivre certaines acquisitions immobilières. Après, il y a la notion de Riviera, qui est en fait mondialement connu. Hein. C'est quelque chose voilà, qui parle à tout le monde et qui fait venir les gens même pour des achats luxueux. Et donc, en termes de secteur, c'est vrai que sur la Côte d'Azur, il y a plusieurs micro-marchés qui fonctionnent très bien pour différentes raisons. Donc, je peux en citer quelques-uns.
Oui,
la liste est longue.
Avec plaisir.
Donc, on a Cannes, qu'on a évoqué tout à l'heure. Avec des secteurs qui fonctionnent bien depuis très longtemps et avec des rénovations récentes, donc sur la Croisette, sur le Palm Beach, etc., où là, les appartements fonctionnent très bien, en plus des propriétés d'agrément avec jardin, piscine, vue mer, etc. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. On a tout le golfe de Saint-Tropez, avec en priorité donc Saint-Tropez, Ramatuelle, mais aussi un marché de report. Quand on n'a pas le budget pour Saint-Tropez, Ramatuelle, les communes voisines fonctionnent très bien aussi. Donc on a Grimaud, Sainte-Maxime, Gassin, etc., qui fonctionnent bien. Ensuite, on a Nice, qui marche très bien aussi, avec le Mont-Boron, Cimiez, tous les caps. Donc Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est mondialement connu, c'est un des marchés les plus chers au monde. La rareté fait que ça continue de fonctionner. Il y a très peu de propriétés. Ce qui va être recherché, c'est vraiment le pied dans l'eau.
D'accord.
En première approche. Puis la vue mer, quand on ne peut pas être pied dans l'eau. C'est vraiment les critères principaux. Et en fait, il y a des communes qui profitent de l'attrait de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui sont juste à côté. Donc, on a Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, Aise et Cap-d'Aille qui jouxte Monaco. Donc, on a le premier report de Monaco sur les villes alentours. Le Cap d'Antibes et Cap Martin. Donc, il y avait eu des années où ça fonctionnait un peu moins bien, mais c'est reparti avec des secteurs privilégiés, des domaines privés qui vont être très demandés. Et toujours, voilà, implantation pied dans l'eau, des terrains avec des belles signatures, même sur les terrains, parce qu'on parlait des signatures architecturales intérieures. Ouais. Mais on a des paysagistes très réputés.
D'accord, ouais, ça c'est important.
Avec
ça,
des coûts faramineux pour des jardins vraiment sublimes qui jouent vraiment dans la valeur des propriétés.
Et niveau fiscalité, c'est intéressant aussi d'être... Alors à Monaco, j'imagine que oui, mais en France aussi
Intéressant, pas forcément. Là, ça a été plutôt compliqué. En fait, on souffre un peu de la concurrence d'autres pays européens. Je sais que l'Italie est très intéressante fiscalement depuis quelques temps. Mais malgré tout, ça ne les arrête pas. C'est vraiment un sujet secondaire, en fait, pour cette clientèle.
Ouais.
Ils veulent une adresse. La France a cette connotation, voilà, architecture, calme, beauté, qui fonctionnera quand même, malgré la fiscalité.
Malgré la fiscalité, malgré le climat où on dit que...
Oui, aussi.
Oui.
Les traits de côte, malgré la chaleur qui arrive, ça reste encore...
C'est une valeur refuge.
Une valeur refuge, et pour cette clientèle-là, il faut être là, en fait.
C'est peut-être une valeur que vous ressentez aussi en Normandie. Enfin, on y viendra dans un instant, mais ce changement
Est-ce que
climat,
ça se reporte
encore,
pour le moment
Pas encore. On parle de la Bretagne, mais peut-être la Normandie, non, pas encore. À suivre.
Si, mais...
Dans le retrait de côte.
Contraignant,
mais...
Rester dans le sud, Monaco, c'est vraiment un marché à part ?
Oui. Ah oui, bien sûr. On peut citer le dernier prix moyen. En fait, tous les ans, il y a une publication qui est faite par l'IMSEE, donc l'Institut de la statistique monégasque. Elle vient d'être publiée donc début d'année. Et on est sur un prix moyen à 57 500 euros le mètre carré.
D'accord.
Il y a 10 ans, on était à 40 000. Donc, c'est vraiment exponentiel. Il y a eu beaucoup de livraisons de produits neufs très qualitatifs, donc des belles transactions dans le neuf. Donc là, ça y est, les plus gros programmes ont été livrés. Donc ça, c'est censé se stabiliser un petit peu.
Oui, parce qu'à un moment donné, ils ne vont pas pouvoir aller trop sur la mer non plus.
Et bah, l'extension est terminée. Ouais, voilà. Oui, le temps qu'un projet de cette ampleur... ça devrait prendre un peu de temps. Mais ce qu'on voit qu'il y a assez... Bon, il y a plusieurs particularités à Monaco. Mais par exemple, donc, sur les livraisons neuves, ce qui se passe à Monaco qu'on ne voit pas en France, c'est qu'on achète sur plan...
Ouais.
Et on revend ses compromis pendant la phase de construction. Donc, il y a plusieurs reventes avant même que l'appartement soit livré. Et les prix augmentent au fur et à mesure. Donc, pour Mare Terra, par exemple, dernières estimations, on a dépassé les 130 000 euros le mètre carré. Quand, sur plan, on était en dessous des 100 000. Donc, il ne s'est passé que quelques années. Entre même pas quelques...
Ouais. Quelques mois, oui.
Quelques
c'est
mois
la rareté entre les
bah,
deux.
C'est ça, c'est la rareté des biens.
Et la rareté, voilà. Il n'y a plus de disponibilité et la clientèle est toujours là.
Et Paris reste malgré tout, Maïlis, vous nous disiez, une valeur refuge pour l'immobilier de luxe aujourd'hui. C'est clair.
Oui, bien sûr. Déjà, il y a aussi le fait de sécuriser son patrimoine. Je trouve qu'il revient pas mal, surtout sur les familles françaises. Paris garde cette image de charme,
de culture,
de voilà, d'art qui reste. La réouverture aussi de Notre-Dame a pas mal joué sur le retour des étrangers. On voit avec pas mal aussi de demandes sur l'île de la Cité, dans le 4e.
Des séries comme Emily in Paris, ça attire du monde
aussi. Il y a eu ça aussi.
Ça reste quand même une capitale qui n'est pas si chère. Enfin, qui n'est pas si chère, on est en dessous des 10 000. Mais en moyenne, on a des prix bien élevés. Mais par rapport aux autres capitales mondiales, nous ne sommes pas dans les capitales les plus chères, en fait. Aussi.
Non, on reste dans les plus abordables. Et par ailleurs, aux États-Unis notamment, et même au niveau international... Le contexte assez instable fait aussi un marché de report sur la France qui reste plutôt justement stable, contrairement à d'autres pays. Je pense notamment à tous les pays d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes. Paris reste... une destination
Et Paris proprement dit, ou l'Île-de-France aussi, l'immobilier de luxe est présent en Île-de-France aussi ou pas?
Alors, un petit peu vraiment sur Neuilly,
Neuilly-sur-Seine,
mais bon, qui est sourcé notamment sur les hôtels particuliers, parce qu'il y a du jardin, il y a des jardins, il y a du terrain, et ce qu'on disait, avec possibilité d'avoir peu de vis-à-vis ou pas de vis-à-vis plus facilement que sur Paris. Après, il y a des marchés, mais qui sont déjà spécifiques, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, mais c'est vraiment des marchés à part. Ils ont leur propre marché. Et nous, on intervient rarement sur ce secteur-là, autant Neuilly et puis
Oui, sur
Paris,
du luxe, ça
vraiment,
reste pas dans les mêmes volumes financiers, en fait.
Oui,
il y a
ça.
De très belles choses.
Voilà, c'est plus dans du haut de gamme, mais on ne passera pas l'ultra-luxe.
La différence dont on parlait tout à l'heure entre le haut de gamme et le luxe, effectivement. La Normandie, est-ce qu'elle attire une nouvelle clientèle haut de gamme, également? Ou au luxe?
Pour le moment, je vois plus des familles françaises ou des Parisiens qui chérissent la côte normande en résidence secondaire. On a toujours quand même aussi une clientèle anglaise qui reste très attachée.
C'est pas très loin pour eux.
Je pense aussi cet amour de... entre mer et nature qui reste...
Les amateurs de chevaux aussi ont fait beaucoup de haras.
Il y a ça aussi.
Mais il est vrai que c'est très isolé malgré tout. Ouais. On voit que les mœurs changent un peu. L'isolement, c'est pas forcément ce qui est recherché pour ces familles. Ça dépend, en fait. Tout le monde ne cherche pas un tel
isolement. En termes d'accès, en effet, c'est...
Aussi, oui.
Bon, facile.
C'est passionnant, c'est intéressant, puis on rêve bien depuis presque trois quarts d'heure maintenant. Alors on arrive à la fin de cette émission, je vous propose, si vous le voulez bien, mesdames, un tour de table rapide, une recommandation. Est-ce que vous auriez une recommandation clé pour réussir l'expertise dans bien de luxe?
À réussir l'expertise Airbnb Luxe, bah, faire appel à Galtier Valuation, des expertes et des experts spécialisés, qui connaissent vraiment leur secteur, comme vous l'avez vu, c'est vraiment... Chaque secteur est vraiment très spécifique. Il faut vraiment être localement implanté sur ces secteurs pour bien connaître les évolutions, bien connaître les marchés et les clientèles. Donc, d'abord faire appel effectivement à un expert pour avoir une expertise avec une signature et puis faire appel à des spécialistes, bien évidemment.
Et le numéro un du marché, c'est Expertise Galtier.
Bien évidemment.
Donc, on n'hésite pas à deux secondes. Manon ?
Oui, dans la lignée de ce que dit Coralie, moi je dirais... faire preuve de beaucoup de curiosité pour prendre le pouls du marché à l'instant T. Parce que c'est vrai qu'on a des publications, alors pas à Monaco, mais on a de la ressource en France, mais il faut la retraiter et vraiment pousser les recherches et pour nous alimenter nos bases de données et réaliser la meilleure expertise qui soit, la plus fiable.
Pour vous, Maëlys ?
Dans la même lignée, en effet... On est des experts de terrain.
Ouais.
Donc, on a la force de Galtier Evaluation, c'est d'être sur plusieurs 14 régions, comme le disait Coralie. Les experts seniors qui interviennent sur ce marché ont la connaissance du terrain et du marché et de la clientèle. Et donc, ce qui est une force aussi pour les clients.
Écoutez, moi, je me suis régalé pendant ces trois quarts d'heure d'émission, parce que vous nous avez amené autour de produits immobiliers particulièrement beaux à découvrir. Donc, on a envie d'aller voir. Hein. J'imagine qu'on peut le faire, d'ailleurs, sur le site d'Expertise Galtier. On peut peut-être trouver des choses, voir de belles images, en tout cas.
Pas vraiment,
puisqu'il y a la confidentialité.
Par rapport à d'autres, nous ne montrons pas ce que nous expertisons. Nous avons un devoir de réserve, de confidentialité. Par contre, si vous voulez voir de très belles choses, il y a des magazines exceptionnels pour rêver.
Merci en tout cas toutes les trois pour ces éclairages passionnants. On retiendra que le luxe immobilier, ça ne s'improvise pas et qu'il est important de faire appel à des experts sur ce marché exigeant, international et profondément lié à la notion de rareté. C'est ce que vous nous avez dit aussi. Et derrière chaque bien, une expertise fine à la croisée de la technique, du marché et parfois aussi de l'émotion. Expertise faite, bien évidemment, par le groupe Galtier. Merci à toutes
les
trois.
Merci beaucoup.
Et merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Immo. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site de Radio Immo et sur toutes les plateformes. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.